Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une école d'art à Valenciennes qui existait depuis 242 ans. On y étudiait notamment le design éco-social, c'est-à-dire qu'on faisait des projets ou des objets ou des espaces conçus avec les habitants concernés dans le respect de l'environnement et accessibles au plus grand nombre. Une école publique dont les frais de scolarité s'élevaient à 400 euros par an environ, tout compris, ce qui est très modeste si on compare aux milliers, voire aux dizaines de milliers d'euros que coûtent les écoles privées. Une école avec beaucoup de boursiers aussi, quelque chose de démocratique, de généreux, un autre monde, on dirait. Car l'ESAD, qui dépend essentiellement pour son financement de la région et de la ville, a commencé à déchanter en 2012. Le principal bailleur, la ville, dirigée par le maire Horizon Laurent Degallet, s'est désengagé progressivement. Et en 10 ans, les subventions municipales sont passées de 1,4 million d'euros à 350 000 euros. L'explosion du prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine, dans une école qui s'étend sur 5000 m² difficile à chauffer, n'a pas aidé, ni le désengagement des autres collectivités territoriales. Hélas, les difficultés rencontrées à l'ESAD de Valenciennes ne lui sont pas propres. La logique de désengagement des écoles territoriales est une tendance massive. La ministre de la Culture, Rachida Dati, en 2024, a d'ailleurs estimé publiquement que certaines écoles d'art étaient, je cite, « déconnectées de la réalité et pas assez performantes ». Aujourd'hui donc, à Valenciennes, après des mois de lutte acharnée, c'est le dernier jour. En juin, les élèves ont lancé une journée porte fermée. Il n'y aura pas de rentrée. Reportage Jeanne Meyer.
Je m'appelle Chloé Théré, j'ai 23 ans. En 2023, j'ai été diplômée de l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes avec un diplôme en design d'espace. Et il y a deux semaines, j'ai eu un master en geodesign à la Design Academy à Eindhoven, aux Pays-Bas. J'ai grandi en banlieue parisienne, un milieu social plutôt aisé, privilégié. Là où j'ai trouvé l'espace pour m'exprimer, c'était à travers l'art plastique, dans un milieu où la créativité n'a pas vraiment beaucoup de place, où l'excentricité n'a pas lieu d'être. Et donc, après le lycée, j'étais prise à l'ESAD de Valenciennes. J'y suis allée un peu au titre, parce que j'ai vu que c'était de l'École supérieure d'art et design, avec une mention en éco-social. Et ça m'a intriguée, j'ai eu l'impression que les mots-clés touchaient ce que je commençais moi-même à effleurer dans ma pratique. Et les sols étaient colorés, on avait une belle bibliothèque, il y avait de l'énergie dans les couloirs. J'ai adoré les enseignements et apprendre des manières de m'exprimer. Donc par le dessin, par un peu la 3D, aller au workshop bois, métal, et avec mes mains transformer des choses dans mon esprit. Donc j'ai adoré les outils que j'ai appris. Et j'ai eu un engagement un peu graduel dans les instances de l'école. Ça a commencé avec le conseil pédagogique, où en première année, j'ai eu juste envie de porter la voix de mes camarades. J'avais beaucoup d'amis qui avaient des problèmes psychologiques. J'ai bien observé le poids de mes privilèges dans cet espace-là, et je me suis dit, si j'ai les ressources pour aider à porter les voix de celles et ceux qui sont plus fatigués, autant le faire. J'étais non boursière, et quasiment tous mes amis étaient boursiers. Me parler de précarité, par exemple d'avoir une maman à charge, d'avoir trois jobs à temps partiel alors que moi j'en avais qu'un seul par exemple. Enfin, j'ai bien vu les contrastes et donc c'est via mes amis que j'ai commencé à avoir un sens du social qui augmentait crescendo dans mes trois années à Valenciennes. Dater l'annonce de la fermeture de l'école est très compliqué puisque ça a été très diffus et qu'au conseil d'administration, ils ont pris beaucoup, beaucoup de temps avant d'admettre qu'ils cherchaient à fermer notre école. Je sais que j'ai commencé à entendre des bruits de couloir pendant ma deuxième année et à la rentrée de ma troisième année, je vois tous les profs qui sont dans un mode de combat. Ils sont en train de faire des cônes pour des manifs, en train d'écrire des slogans et on me dit qu'on commence à rentrer en lutte. C'était une sorte de boule de feu d'expression très forte qui mélangeait frustration, appel à l'aide, énervement, peur. Et ça a explosé. Et je pense que c'est le début où je suis entrée dans une longue phase où j'ai tenu qu'à l'adrénaline, juste en me disant, ok, là, il faut lutter, il faut écrire des pétitions, là, il faut manifester, là, il faut informer. Je crois que j'ai eu l'impression que pour être plus efficace, il fallait que je sois une sorte de robot qui pouvait enchaîner AG, organisation de mouvement, et que le fait de devoir gérer autant la lutte que mon diplôme a fait que j'ai vraiment mis de côté toute tristesse qui pouvait monter en moi. Et oui, je me suis bien mise de côté pour lutter pour ça. C'est vrai qu'au début, j'ai été frustrée qu'il n'y ait pas plus d'engagement. Un sentiment de solitude était assez fort de se dire « Attends, je suis la seule à vouloir autant que mon école reste ouverte. » Et j'ai bien pu observer que, en fait, selon la situation familiale, selon justement l'état de précarité, santé mentale, il y a des gens qui voudraient s'engager mais qui ne peuvent pas. Après, il y a d'autres personnes qui savent que l'école a un problème mais qui n'ont pas l'impression que leur action puisse faire changer quelque chose et qui vont préférer garder leur énergie pour autre chose que pour lutter pour quelque chose qui leur semble être vain. Ensuite, l'autre catégorie que j'ai observée, c'était les amis de celles et ceux qui sont engagés. Donc à quel point le cercle social, ça a influencé beaucoup. Des gens qui supportent leurs potes, finalement. Et c'était intense parce qu'on était perforés à l'espoir tout du long, avec très peu de retours sur investissement, disons. Et en décembre, on nous a demandé de trouver 400 000 euros. Alors que c'est pas notre travail. Et donc, on a accumulé des tâches, parce que tout le monde gardait son job. Tout le monde était soit prof, soit étudiant, soit dans l'administration. Plus, à côté de ça, on devait trouver des financeurs. C'était contacter des potes de potes, penser à quelqu'un qui pourrait avoir... Qui connaît des contacts pour la Voix du Nord? Qui connaît des contacts pour tel journaux? Bon, il y avait une charge mentale assez énorme. Et puisqu'ils ont vraiment pris du temps à nous dire que l'école allait fermer, on l'a vraiment enduré trop longtemps. Ça a été une fermeture très progressive. Ça commence par l'impossibilité de recruter les premières années, puis impossibilité de recruter en master et en équivalence. Donc moi, je ne pouvais pas continuer mon cursus dans l'école d'art, en fait. Donc, après avoir eu mon diplôme de troisième année à Valenciennes, je suis partie aux Pays-Bas pour faire mon master. Le 27 juin 2025, on a décidé d'organiser ce qu'on a appelé les journées portes fermées. Ça a été pensé comme un moment de fête, mais aussi de deuil, de ne plus pouvoir mettre les pieds dans des locaux, devoir dire adieu à une effervescence très inspirante et formatrice. Il y a eu 200, voire 300 personnes qui sont venues pour célébrer les SAD lors du 27 juin, avec des étudiants... Ancien étudiant qui remonte à des promotions presque de 50 ans en arrière. Jusqu'à 23h, je courais un peu partout. Donc j'ai eu le luxe de pouvoir encore crouler sous le travail et m'autoriser à ne pas faire mon deuil. Mais quand le jour s'est levé, on a réalisé que c'était la fin de la soirée. Enfin, il n'y a pas que moi, tous les profs aussi, et les personnels autour de moi, administratifs, qui étaient là. Et là, nous ayant pris une tristesse forte, où pendant les heures d'avant, on dansait super fort, c'était quasiment tous en transe. Je me retournais, je voyais les profs qui dansaient comme des fous tout autour. C'était incroyablement libérateur. Puis en plus, comme on en était, à 5h30, ça commençait à se lever. Je me disais, quoi déjà? Non, non, je veux pas que ça s'arrête maintenant. Mais je pense que mon deuil n'est pas encore terminé. Mais que je l'ai enfin commencé avec la soirée du 27, en pleurant avec des profs. Après que le dernier groupe ait remballé son matériel son, j'ai déambulé avec deux amis dans l'école et on a chanté dans les locaux. Et après, je me suis couchée vers, je crois, 9h. Puis on s'est réveillés tous à midi pour faire un barbecue. Il y a plein de gens qui sont revenus, qui avaient soit dormi partout dans l'école, dans la salle d'expo, sous l'amphithéâtre. Enfin vraiment, l'école était habitée de gens qui dorment aussi dans la bibliothèque. Et vers midi, on s'était collectivement dit qu'il fallait qu'on réémerge pour bruncher ensemble et essayer collectivement de souffler. Valenciennes est touchée, mais ça va toucher plein d'autres écoles. Il y a déjà eu Ruelle Malmaison en 2012, Perpignan en 2016, maintenant les SAD de Valenciennes en 2025. En ce moment, il y a Angoulême, Poitiers, Toulouse, il y a plein d'écoles qui ont aussi des soucis budgétaires. On se fourvoierait de penser que les SAD de Valenciennes meurent à cause de raisons locales. On représente quelque chose qui se trame à l'échelle nationale, ce sera tristement, je pense, les écoles d'art privées qui prendront le pas s'il n'y a pas un changement maintenant. Pour moi, la lutte ne s'est jamais terminée. Même en étant à l'étranger, en faisant mon master, dès qu'on parlait de Valenciennes, j'étais habitée du même discours de frustration, de sentiment d'injustice. C'était pas juste la fermeture d'une école, c'était un échec social. Et donc, d'accepter que quelque chose d'aussi important soit perdu, ça m'a pris beaucoup de temps.
Je m'appelle Soumaya Nader, j'ai 31 ans, je suis designer et les deux dernières années, j'ai été enseignante à l'ESAD de Valenciennes. J'ai grandi dans des grands ensembles, à Fontenay-sous-Bois, c'est dans le Val-de-Marne, donc à l'est de Paris. Jusqu'à l'âge de 19 ans où je suis partie faire mes études à Valenciennes, à l'ESAD, en 2014. Quand j'étais étudiante à Valenciennes, j'étais boursière en échelon assez haut, ce qui me permettait de pouvoir avoir un petit appartement, de payer mon matériel aussi, parce que être étudiant en art, même dans une école publique, c'est pas gratuit. Donc ça me laissait suffisamment pour avoir une petite vie simple, mais correcte. Si j'étais restée à Paris, en tout cas à Fontenay, j'aurais pas pu me concentrer à 100% sur mes études. Dans ma chambre d'adolescente de 10 mètres carrés, c'était pas vraiment le contexte le plus agréable pour travailler. L'ESAD avait la particularité d'accueillir beaucoup d'étudiants et d'étudiantes boursiers. Il y avait une diversité à l'époque où j'étais étudiante de parcours de vie, en fait, mais que malgré ça, chacun avait eu sa chance d'intégrer cette école pour en faire quelque chose par la suite. Ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles d'art sur le territoire. Quand je suis arrivée à Valenciennes en 2014, c'était comme un choc pour moi. Je me retrouvais dans un petit appartement en centre-ville qui peut être assez bourgeois, dans les combles d'une vieille maison. Et ça contrastait tellement avec l'univers où j'avais grandi, qui était fait de blocs de béton. Et pour moi, à Valenciennes, d'un coup, j'ai vu d'autres détails en fait, qui révélaient pas mal l'histoire de la ville, mais aussi son histoire sociale, ouvrière. Ça fait partie quand même, Valenciennes, d'une des régions les plus pauvres de France, qui a énormément souffert de la désindustrialisation, de la fermeture des usines, des fosses. Et l'école supérieure d'art et de design de Valenciennes, son bâtiment actuel, il se trouve entre deux voies ferrées, dans les anciens locaux administratifs d'Usinor, qui était un gros groupe de sidérurgie. Moi, je suis énormément attachée au territoire valenciennois. Les terris, par exemple, qui sont ce qui restait, en fait, les déchets miniers, qui constituent des petites collines. L'architecture industrielle, c'est des formes qui m'ont beaucoup marquée et qui, encore aujourd'hui, ont des conséquences sur le travail que je fais. Donc, en septembre 2014, ma rentrée à l'ESAD se passe très bien, avec des projets ancrés sur le territoire, ce qui m'intéressait énormément parce que je trouve important l'attachement qu'on a à un lieu et ce qu'on peut y faire avec les gens qui y habitent. Beaucoup de gens pensent qu'une école d'art, c'est élitiste et je m'en suis rendu compte en fait que c'était pas vraiment élitiste avec les projets menés. Je repense à un projet de rénovation d'Habitat 1930, donc les Corons, et un projet à la cité Sabatier à Rennes, où avec un groupe de seniors, on avait retracé la carte du quartier quand l'activité minière était encore existante, par exemple. Et cette réalité-là m'a plu, parce que j'avais pas l'impression qu'en sortant, j'allais m'enfermer dans mon atelier, penser les choses pour moi, faire les choses pour moi, mais que j'allais trouver un moyen de faire les choses avec les autres et pour les autres. En 2016, j'étais déléguée des étudiants. Et Alice Vergara, la directrice de l'époque, nous convoque avec d'autres délégués pour nous informer de la menace de fermeture imminente, finalement, sans certitude de pouvoir terminer les cursus engagés. « Donc avec d'autres étudiants, on a décidé d'agir, de se montrer en ville avec des tracts, une lettre ouverte au maire, au président de région, plusieurs assemblées générales. On était plusieurs étudiants à s'être syndiqués au CEL-CGT, donc le syndicat étudiants et lycéens. Et un jour, alors qu'on organisait une assemblée générale avec les étudiants, on remarque une présence inhabituelle dans l'école. Cette personne demande à me voir, parce que c'est moi qui avais publié sur les réseaux l'annonce de cette assemblée générale. Et en me donnant sa carte, je me rends compte qu'il fait partie des renseignements généraux. Donc on se dit que c'est une manière de nous impressionner, de vouloir nous faire peur et peut-être de vouloir nous faire taire. Et moi, je lis ça au fait que Daniel Capel, qui était président de l'école, était aussi directeur de Valdune, donc une entreprise de fabrication de roues de train. C'est vrai que Daniel Capel nous avait demandé de ne pas bloquer l'autoroute avec des pneus, par exemple. Comme si on rentrait dans cette relation un peu de patron et d'ouvrier qui est aussi présente historiquement sur le territoire de Valenciennes. Mais finalement, on a été un peu rassurés, on a pu finir nos cursus, et en 2018, j'ai passé mon diplôme, et puis je suis rentrée directement dans le monde du travail. Auprès de centres socioculturels, dans le cadre des rénovations des quartiers, des projets qui étaient sur le territoire du Valenciennois. Et durant l'été 2023, je tombe sur une annonce pour être prof à l'ESAD, sachant qu'entre-temps, entre 2018 et 2023, il y avait eu de nouvelles coupes budgétaires avec une annonce de la fermeture de l'école en juin 2025. Mais c'était une expérience qui avait été tellement formatrice pour moi en tant qu'étudiante que je me dis que si je peux retransmettre ça à une jeune génération, je le ferai avec plaisir. Donc je postule. Et je suis devenue prof à l'ESAD de Valenciennes. Ça m'a retransportée du coup aussi en 2016, hein, quand il y a eu ce premier moment de lutte. J'ai aussi pris conscience au fur et à mesure de toutes les opportunités que d'autres futurs étudiants ne pourraient jamais connaître. Ça m'a rendue un peu mélancolique de moi, les années que j'avais passées là, et un peu frustrée, déçue de la fermeture, quoi, et de ce qui pourrait pas se passer plus tard. Aujourd'hui, on est le 18 juillet 2025, et c'est le jour de la fermeture administrative de l'école. Tout le personnel, voilà, part en vacances, mais c'est spécial parce que cette fois, il reviendra pas à la rentrée. Pour nous, les enseignants, les enseignantes, les étudiants, les étudiantes, c'était surtout le 27 juin, le jour, le soir, la nuit de la dernière fête de l'ESAD, qui était un moment assez incroyable où chacun a pu participer à des performances, des rituels de deuil, a pu voilà, dire au revoir une dernière fois, en tout cas au bâtiment de l'école. Si je devais garder une image de cette fête de fin d'année, c'est vers 6h du matin. Je monte dans les étages, dire un peu au revoir, revoir les espaces. La lumière des paliers pas allumée, des choses qui traînent parce qu'une école d'art, c'est quelque chose de vivant avec toujours des projets à droite, à gauche. Et par la fenêtre, en fait, je vois le soleil qui se lève sur la fête qui continue et la musique et les gens qui dansent et qui sont à la fois tristes et heureux.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Laurette, j'ai 21 ans et je viens d'être diplômée de l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes à la fin d'un cursus de design, en troisième année. J'ai grandi à Péranchy, c'est une petite ville de campagne juste à côté de Lille, et je viens d'une famille de créatifs. Mon papa fait beaucoup de peinture, mon papy a toujours fait des petits dessins, et j'ai toujours été très encouragée à faire ce qui me plaisait et ce qui me rendait heureuse. Donc je suis partie vers des écoles d'art naturellement. Alors, j'avais pas du tout envisagé en terminale l'école de Valenciennes. Je ne connaissais même pas l'existence de l'école. Et quand je suis arrivée dans le bâtiment, en fait, ça m'a tout de suite plu. Il y avait des grands espaces, énormément de lumière. Je me suis dit, c'est ça, en fait, pour moi, l'école d'art. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est là que je veux aller. et c'était mon objectif premier. À la rentrée en septembre 2022, on nous a fait une réunion dans l'amphithéâtre où on nous a dit que voilà, on aurait du mal à faire du chauffage, enfin avoir du chauffage dans l'école parce que c'était très cher. En fait, j'étais tellement dans ce truc de nouveauté, des amis, on sort, etc., que j'avais pas forcément remarqué que je restais toujours en manteau dans l'école. Mais en prenant un peu de recul et en parlant justement avec les années supérieures qui avaient connu l'école avant et les hivers précédents dans l'école, ils m'ont dit non mais là ça va pas, tout le monde en doudoune, il y a plein de gens qui venaient plus parce qu'il faisait trop froid. Et on a mis des bâches en plastique pour séparer nos espaces dans les salles, donc on se voyait même plus en fait, on travaillait dans des cocons de plastique, c'était un peu étrange. On savait pas encore trop que nous c'était lié à un problème de budget général dans l'école. C'était quelque chose qui était tellement d'actualité, on voyait tellement partout que l'essence avait augmenté, que le gaz aussi, que pour moi c'était bon, bah c'est partout pareil au final et c'est normal, c'est pas grave, on va passer au-dessus. Et quand j'ai appris la fermeture possible de l'école, ça m'a fait beaucoup de mal au début, parce que pour moi j'avais tellement idéalisé ce bâtiment et cette pédagogie et ce lieu, que je me disais en fait c'est pas possible de fermer un lieu pareil. Et pour moi en France c'était pas possible tout court de fermer une école. Enfin les écoles pour moi c'est des instances qui sont protégées, qui sont vitales à l'État. Donc tout de suite je me suis dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. J'étais en première année, j'avais pas vraiment, à part passer mon année, j'avais pas de diplôme à passer, j'avais pas de soucis autres. Donc je me suis dit bon bah je vais m'investir pleinement dans la lutte parce que... Je ressentais le besoin de protéger ce lieu que je venais de fréquenter, mais qui me plaisait en fait déjà tellement. Donc pour tenter d'alerter sur la situation de l'école, on a décidé de créer des affiches. On a attaqué principalement la mairie. Je sais qu'à l'époque, il y avait un projet de golf à plusieurs millions d'euros qui était en train de se monter un peu dans la mairie, et ça n'a pas trop plu du fait qu'on critique directement une institution et pas qu'on fasse juste sauver les SAD. Et je pense que la mairie a senti qu'il y avait une vague ou un soulèvement qui est en train de se faire dans les étudiants à l'école. Et donc on a la présidente du conseil d'administration qui s'est présentée et qui nous avait dit « Bon écoutez, telle date, je vais venir en amphithéâtre pour pouvoir vous parler et répondre à vos questions sur cette fermeture ». Et à partir du moment où elle est rentrée dans l'amphithéâtre, c'est vrai que ça n'a été que enfantilisation, beaucoup de reproches. Et en fait, au bout d'un moment, bah, les étudiants étaient déjà en colère. Ça n'a fait qu'augmenter les tensions et qu'augmenter le sentiment de révolte qui était en train de grandir dans les étudiants. Parce qu'en fait, elle ne nous considérait pas du tout. Elle était juste là pour pouvoir faire un peu la com' de la mairie. Donc on a contacté la CGT et les syndicats de Valenciennes pour pouvoir se clipser un peu à leur manifestation. À l'époque, il y avait la réforme des retraites. Il y avait énormément de manifestations presque toutes les semaines, et même des fois plusieurs fois par semaine. On s'est rajouté à ce mouvement. On était tous là, on chantait des slogans qu'on inventait sur le moment, ou on reprenait certains slogans qu'on remélangeait. Je pense souvent à « on veut rien rallonger sauf la vie de l'ESSAD » par rapport à la réforme des retraites. Et en fait, ça nous permettait aussi de pouvoir interagir avec d'autres manifestants, de leur faire apprendre par rapport à la fermeture de notre école. On a pu des fois prendre le micro sur certains chars pour pouvoir dire ce que nous, on est en train d'endurer. Et c'était vraiment des moments de joie et d'exaltation. Le militantisme, c'était quelque chose que j'avais jamais abordé. Et là, en fait, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je savais pas comment le matérialiser. C'est vrai qu'on m'a un peu donné des cours, en fait, de comment on va faire. Bah là, on va aller faire une manifestation et puis on peut aussi faire une action avec les affiches. Et du coup, on m'a vite dit, bah écoute, on peut matérialiser cette colère que t'as et ces revendications dans quelques petites choses. Et on a aussi beaucoup le syndicat du Massico qui nous a aidés. On a vraiment été bien accompagnés. Et c'est une de nos professeurs, Lucille Bataille, qui nous a vraiment poussé en fait à être plus agressif dans notre manière de lutter. Elle nous a dit il faut prendre une envergure différente. Et donc elle nous a dit mais en fait occupez l'école. Je suis sûre qu'avec l'administration ça va bien se passer. En plus qu'ils sont déjà, enfin on est déjà avec vous, même l'équipe pédagogique. Et on a fait une réunion dans l'amphithéâtre où on a voté en fait l'occupation de l'école. Et je me sens que toutes les mains étaient levées en moins de 5 secondes. Et en fait, on avait tous envie de pouvoir être dans l'école tout le temps. On pouvait aussi travailler sur nos projets personnels et notre cours pendant la nuit. C'est-à-dire qu'en une après-midi, on a pris la camionnette, on a fait le tour de tout le monde pour prendre les coussins, les couettes, les oreillers, pour pouvoir aller chercher tout ça. Et il y avait un peu ce truc de colonie de vacances version XXL, et la colonie de vacances, c'était une colonie de lutte. Et on savait que si on avait un coup de mou, on pouvait aller forcément parler avec quelqu'un et être là pour les uns pour les autres. C'était vraiment important dans cette période qui était très compliquée. Donc au final, cette occupation, elle a duré à peu près 2 mois. Et à la fin de l'occupation, on sentait vraiment qu'il y avait une grosse fatigue dans les rangs en fait, du noyau et des élèves en général. Parce qu'en fait, dormir tout le temps à l'école, on ne change pas souvent d'espace de vie. beaucoup de frustration aussi de voir que la lutte ne faisait pas avancer les choses et que l'occupation pour l'instant n'avait pas fait avancer les choses. Depuis les diplômes arrivés, les vacances arrivées, donc on a arrêté. Donc la dernière année, c'est 19 élèves, 14 professeurs et entre 5000 et 6000 m2 de bâtiments. Puisqu'il y a eu une décision qui avait été prise par la mairie et par la DRAC de ne pas reprendre en fait d'élèves, donc faire ce qu'on appelle une année blanche. On avait été donc effacés de Parcoursup. Et c'est vrai que là, en fait, il y a toujours des grands moments de solitude dans l'école et ce grand vide, il y a très peu de bruit ou alors quelques petits rires par-ci par-là. On s'est tous rassemblés en propédeutique alors qu'on avait toute la place possible, mais à la dernière promo, tout le monde s'est mis dans la même salle pour éviter, je pense, d'avoir ce ressenti. Et c'est vrai que ça a créé vraiment ce sentiment de groupe, de se dire, bon, il reste qu'un an, il faut un peu qu'on apaise les tensions et qu'on travaille tous ensemble pour avoir notre diplôme et passer une bonne année. En janvier, je suis en train de travailler et je vois donc Aude, qui est la responsable du bâtiment, rentrer avec quelqu'un que je ne connaissais pas dans la salle. Et le monsieur avait un petit micro. Et compter en fait les choses dans la salle, et donc Aude l'aidait à compter, il faisait 4 chaises, bip bip, à la ligne. 3 tables, bip bip, à la ligne. Et moi j'étais là, je voyais tout ça, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et à la fin de la journée, Aude elle m'a dit, bon bah en fait c'est un huissier de justice qui a tout compté dans l'école, et j'avais souvenir de, ah ouais en fait ça commence à être vraiment la fermeture, et le fait qu'il le fasse dans des espaces où il y a des gens qui travaillent encore, ça montrait bien qu'il n'y avait pas vraiment d'intention de considérer les étudiants encore une fois. Donc c'était un peu dystopique en fait comme moment. Ce week-end, on a eu la dernière fête de l'école. C'est un moment que j'attendais vraiment et que j'appréhendais beaucoup. Mais en fait, c'était vraiment, je pense, la meilleure soirée qu'on pourrait faire pour finir cette école. C'était naturel, c'était essadien au possible. Et cette fête, ça a été le moment de pouvoir baptiser notre géant, donc dans la tradition des géants du Nord. Un géant du Nord, c'est une structure architecturale mobile. Ça fait plusieurs mètres de haut et le nôtre, il fait un peu plus de 3 mètres. Dans ma ville d'enfance, à Péranchy, on en a 3 ou 4. Et pour moi, c'était des grandes structures que je voyais bouger au moment des fêtes et qui étaient magnifiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un géant. Et donc, depuis le début de l'année, on fait la structure, on travaille sur le costume, la tête, les mains. J'ai tellement hâte de pouvoir le voir déambuler dans les rues et de faire la fête avec d'autres gens et avec d'autres géants. Je sais qu'il ressortira le 30 août à l'occasion des 200 ans de Bimbin, qui est le géant de Valenciennes, et vont faire la fête côte à côte. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il va continuer de vivre. J'espère qu'il n'aura pas autant de soucis financiers que nous. Et j'espère qu'il pourra vivre heureux là où il sera.
C'était l'effacement de l'école d'art de Valenciennes, un reportage de Jeanne Meyer réalisé par Éric Lancien. Merci à Chloé Théré, à Laurette Brem et aux derniers élèves de la dernière promotion de l'école de Valenciennes, ainsi qu'à leurs professeurs Soumaya Nader, Julien Rodriguez et à l'ensemble de l'équipe de l'ESAD. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.